Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour et merci d'avoir choisi Canal Académie. Dans cette émission, une fois n'est pas coutume, nous allons feuilleter deux romans mais rencontrer un seul et même auteur, Michel Jouvet, de l'Académie des sciences. Monsieur Jouvet, merci d'être venu à l'appel de Canal Académie. Bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir pour moi de monter de Lyon jusqu'à Paris. Enfin, on pourrait dire descendre à Paris.
Pour vous accueillir dans ce studio, nous sommes deux. Puisque notre jeune collaboratrice, Solène Robin, qui a déjà enregistré avec vous deux émissions, est présente avec nous, je précise à nos auditeurs que ces deux émissions, intitulées « Le sommeil et le rêve, décryptage », sont disponibles à l'écoute et ou au téléchargement dans notre médiathèque. Monsieur Jouvet, vous êtes un scientifique, médecin, neurochirurgien, neurobiologiste, membre de l'Académie des sciences depuis 1977, où vous siégez dans la section « Biologie humaine et sciences médicales ». Et vous avez passé votre existence dans votre laboratoire à vous pencher sur le cerveau durant le sommeil. Vous avez fait d'importantes découvertes dans ce domaine. Et néanmoins, vous avez pris la plume pour vous faire romancier. Alors, vous avez d'abord rédigé Le Château des Songes, qui est paru chez Odile Jacob en 1992, c'est-à-dire il y a 15 ans. Et ce fut immédiatement un très grand succès de librairie. Vous attendiez-vous à un tel succès ?
Non, parce que je ne connaissais pas du tout les milieux d'édition. Et comment sortir un livre, je pense que la télévision a dû y être pour quelque chose, parce qu'il y avait une émission qui s'appelait à cette époque, c'était La Marche du siècle, c'est ça, qui avait attiré pas mal de gens, et donc ça avait servi sans doute à promouvoir ce livre qui est sorti en même temps qu'un livre plus scientifique qui était Le sommeil et le rêve.
Voilà, je me souviens que vous aviez insisté pour sortir les deux à la fois.
C'est Odile Jacob, bien entendu.
Voilà. Ce livre, Le Château des Songes, quel tirage atteint-il maintenant, si vous le savez ?
J'en sais absolument
rien. Votre éditeur
rien.
Ne vous le
ça
dit
fait,
pas.
Non, ça
est-il
fait partie traduit des secrets les plus gardés qui soient. Je crois que ça doit être maintenant. Les deux, je crois que les deux, ça fait 100.
Oui, 100 000 exemplaires, ça ne m'étonne pas. Est-il traduit ?
Oui, alors celui-là a été traduit en 15 ou 16 langues, y compris en coréen.
16 langues, c'est extraordinaire.
16 langues, oui. Alors, beaucoup en japonais, parce que j'ai beaucoup d'amis au Japon, en suédois. Ça vient d'être pris par MIT Press, qui n'y prennent que des choses sérieuses. Et c'est, je crois, le premier roman qui sera traduit par les MIT Press.
Je crois qu'en effet, on peut les compter, ouais. Et donc je me réjouis pour vous. Et en 98, vous avez récidivé en publiant un autre roman, donc Le voleur des songes, toujours chez Odile Jacob. Est-ce que c'est un plaisir pour vous, Michel Jouvet, d'écrire une œuvre d'imagination, alors que je sais que vous avez publié d'innombrables articles scientifiques ?
Oui, c'est très curieux. En fait, je pensais, c'est toujours pareil, c'est comme disent d'autres romancier que j'ai entendu à la radio, on a l'impression que c'est quelqu'un que, quand je me mettais le soir à écrire, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire. Donc, j'avais un espèce de plan, mais des personnages curieux apparaissaient, et j'écrivais pendant 2 heures, j'écrivais presque un chapitre un soir, je me disais, mais d'où vient cette chose qui est dans mon inconscient ? Et curieusement, comme je notais mes rêves, je n'ai eu qu'exceptionnellement des rêves en rapport avec le roman. Donc, il faut croire qu'il y a encore quelque chose d'autre. Quelqu'un qui prenait ma main.
Prend la plume.
Surtout
oui.
pour le premier. En fait, le premier est venu parce que, comme tous les chercheurs du sommeil, je souffre d'insomnie. Et j'aime beaucoup les vieux livres. J'avais acheté une bibliothèque d'un confrère qui a disparu, et il y avait toutes les mémoires de l'Académie des sciences depuis 1699 jusqu'à 1790.
Oui, j'allais justement vous faire remarquer que l'un des grands plaisirs de ce livre, quand on le lit, c'est de plonger dans le 18e siècle.
Ça
commence en 1765.
Je suis devenu quasiment un 18e-iste, donc j'ai ensuite acheté les mémoires de Grimm et Diderot. Vous savez qu'ils faisaient passer les choses pour pouvoir mettre des choses un peu lestes qu'elle est dans les lointains. J'ai bien entendu trouver, mais c'est en Suisse, toutes les œuvres de Charles Bonnet, qui était un homme extraordinaire.
Oui, qu'on découvre dans votre roman.
Qu'il fallait. Oui. Donc tous ces gens-là se sont rentrés dans ma cervelle. Et puis l'homme loup, l'homme chien.
L'homme velu,
oui. C'est parce que j'avais trouvé également un magnifique livre sur les velus. Et l'histoire de cet homme est exactement comme je la raconte. C'est un Russe avec tout ça. Et tout d'un coup, eh bien, je me suis dit, voilà. Et la Dombe est un pays qui porte, avec ses changements de couleurs, le brouillard, les petits châteaux qui sont perdus là-bas, qui ont une espèce de coloration qui m'ont semblé marcher très bien avec le XVIIIe siècle.
Alors, la Dombe, c'est justement le lieu où se passe ce roman, si l'on peut dire. Vous pouvez préciser pour nos auditeurs étrangers exactement où ça se trouve
en
France ?
La Dombe, c'est une plaine glaciaire. Les glaciers sont venus lors de la dernière période glaciaire jusqu'à Lyon. Et ils ont transporté même encore des gros cailloux, c'est pour ça qu'on trouve des gros cailloux à Lyon. Et puis, ils ont transporté beaucoup de cette poussière extrêmement fine, quelques microns, qui fait que l'eau ne peut pas s'infiltrer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des étangs. Et c'est pour ça que, à partir du 14e, 15e siècle, les gens qui avaient à lutter, puisqu'ils ne pouvaient pas, pour ainsi dire, pas cultiver quoi que ce soit, ont eu l'idée de subvenir à leurs besoins en élevant des poissons. Et ils ont mis au point tout un système extraordinairement complexe, qu'un étang se vide dans un autre étang, qui se vide dans un autre étang, de façon à ne pas perdre l'eau. Et il y a donc des canaux un peu secrets qui se promènent. Et quand j'ai commencé à me promener là-bas, il y avait encore des chevaux qui avaient le droit de ce qu'on appelle de brouillage, parce que au printemps, ces étangs sont envahis par une espèce de plante verte, et des chevaux ont le droit d'y aller, mais là aussi, le droit de brouillage est extraordinairement compliqué. Et tout ça fait que c'est un pays, bien sûr, qui a changé beaucoup, mais qui reste encore très sauvage.
Dans votre livre, j'ai cru comprendre que vous preniez plaisir à décrire les paysages. Vous aimez cette région et vous aimez décrire les saisons, la lumière, les arbres, les animaux.
Les oiseaux, les animaux, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai que j'habite aussi un petit peu en dehors de Lyon, juste à la limite de la Dombe, dans une grande maison isolée dans les bois. Et je vois passer quasiment, peut-être pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, des sangliers et des chevreuils qui descendent. Et bien sûr, ça, mes chiens se précipitent pour aboyer, donc je suis toujours averti. Puis il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup maintenant, il y a énormément de cigognes qui restent dans la Dombe. Il y a des faisans et il y a surtout toutes les sortes de hérons qu'on puisse imaginer.
Voilà, les hérons, j'ai découvert une race grâce à vous, le héron Bihoreau.
Bihoreau, c'est un petit héron, qui est très très commun. Et on voit très souvent aussi des hérons gris, et on voit exceptionnellement, mais quand on les entend, c'est extraordinaire, c'est le butor étoilé. C'est un petit héron, qui a un cri qui ressemble à un tambour très très grave. Donc vous êtes dans la campagne le soir, vous entendez un roulement de tambour, vous vous demandez ce que c'est. C'est un tout petit oiseau qui fait ça. Il en reste, c'est extraordinaire aussi, c'est onirique.
Michel Jouvet, vous auriez aimé être naturaliste ?
Bien sûr, mais ce que je décris en fait, la vie de ce monsieur Hugues de la Sève, c'est un naturaliste. C'est un petit peu, il a été médecin, il a eu pas mal d'aventures, et puis il s'est retiré comme un naturaliste dans ce château qui existe toujours, qui est le château de Bouligneux. Et quand j'avais envoyé par courtoisie mon roman au possesseur du château, oui, où je n'avais jamais pu rentrer, et il a cru toute l'histoire, et il a regardé un peu partout, et sa femme m'a reproché beaucoup toutes les polissonneries qu'avait fait cet individu au XVIIIe siècle. Il n'y avait qu'une chose
qui... C'est un libertin, c'est normal.
Oui, c'est un libertin pour cette époque. Et c'est un... Eh bien, également, c'est un... Comment dire... Agnostique. Voilà, comme étaient les gens à cette époque.
Justement, cette époque, vous l'aimez beaucoup. J'ai l'impression que vous aimez l'effervescence intellectuelle où on s'intéresse à tout.
Oui, il y avait des cercles des curieux de la nature. Mmh. Et c'est là où il a rencontré des gens assez extraordinaires. C'est tous ses jumeaux. Puis il y avait le brouillard quand il descendait à Lyon pour voir ça. Il y avait une maîtresse qui était une très jolie...
Mulâtre.
Oui, mulâtre de la Guadeloupe, ou je ne me rappelle plus si c'est la Guadeloupe, je l'ai fait venir.
Donc il est dans la nature, puis de temps en temps il est à Lyon. En effet, il y a les deux.
Sa femme
deux
lui laisse beaucoup de liberté, mais à la fin,
béni soit-elle. Monsieur Jouvet, est-ce qu'on peut dire qu'à cette époque, Hugues Lassève, qui est donc le héros et votre personnage dans ce château des songes, est-ce qu'on peut dire qu'il est le représentant d'une école française d'érudits et de savants qui se serait déjà au XVIIIe siècle penchée sur les rêves et l'étude du cerveau, un siècle et demi quasiment avant Freud, en tout cas 120 ans avant Freud?
Écoutez, il y a toujours pareil, le rêve de D'Alembert, de Diderot, est extraordinaire. Il faut le lire, le relire, parce que c'est là où Diderot explique d'abord que les plantes qui vivent, mais ne peuvent vivre que s'il y a du minéral, donc il laisse entendre que déjà le minéral c'est quelque chose, et les plantes c'est vivant, les plantes sont mangées par des animaux, l'homme mange les animaux, il y a toute une espèce
de filiation
philosophique et tout, qui est extrêmement intéressante, et puis quand il insiste un peu, il semble avoir vu, bien que ce soit peu transparent, peut-être par retenue, il semble avoir observé chez D'Alembert, qui est en train de rêver à côté de Mademoiselle de Lespinasse, il semble avoir aperçu une érection.
Et donc, phénomène normal, comme vous l'avez déjà démontré dans l'émission d'avant.
Donc, il l'a vu, ce qui a fait bien rire beaucoup de gens, parce que, paraît-il, D'Alembert était impuissant. Par contre, Mademoiselle Lespinasse...
Si l'on en croit l'expérience. Michel Jouvet, dans ce livre, vous avez aussi, donc vous citez bien sûr Diderot, mais aussi Buffon et Charles Bonnet, on en a parlé, mais aussi Julien de la Mettrie, Théophile de Bordeux. Enfin, tous ces grands personnages du XVIIIe siècle, tous ces savants, vous leur donnez aussi une dimension européenne, c'est-à-dire qu'ils sont tantôt en Allemagne, en Italie, en Europe, dans tous les coins. Vous regrettez cette époque-là?
Sans doute. Mais je cite Marat, bien sûr. Marat a été un petit peu physiologiste avant de décapiter les gens, avant de finir poignardé. Je cite aussi l'Américain, l'inventeur du paratonnerre, Benjamin Franklin. À cette époque, il y avait bien sûr une école. Regardez, la maîtrise, c'est extraordinaire ce qu'il a fait, l'homme-machine. Il faut relire l'homme-machine. Après, il a écrit la plante-machine. Il a calculé le temps de reproduction des ovocytes mâles et femelles chez les plantes, qu'il a comparé au temps de la fécondation chez les animaux. Mais la maîtrise a été quelqu'un de très très grand.
Très important, oui.
Très grand. Bien entendu aussi, c'est là où on voit la difficulté de la recherche. Charles Bonnet avait fait des expériences considérable chez des pucerons, des pucerons qui étaient vierges. Il avait même gardé ces pucerons le jour et la nuit pour que personne n'introduise un puceron qui vienne les féconder. Et ces pucerons ont donné naissance à des pucerons. Donc, c'était vraiment la théorie oviste, puisqu'elle n'avait que des œufs. Et à partir de là, il avait fait une espèce de délire extraordinaire où il pouvait calculer, puisque l'œuf de notre mère Ève contenait donc tout, les gens qui devaient venir après. Donc, il avait calculé la dimension des animalicules qui étaient là-dedans. C'est extraordinaire.
Oui, c'est tout l'intérêt du 18e, justement, qui était un siècle fascinant. Alors, Bonnet, il a une consigne que vous reportez et qu'il donne à votre héros dans une lettre, ou même il le lui dit, je crois, « Observez, monsieur, observez longtemps ». Est-ce que ça a été votre consigne par rapport à vous-même et par rapport à vos élèves?
Je crois que le physiologiste général que j'étais devait tout le temps, j'étais tout le temps au chevet des animaux, je regardais les animaux, et bien sûr le tracé électrique qui était recueilli chez eux, et je déplore un peu maintenant qu'avec les ordinateurs et tout ça, mes jeunes élèves, qui sont devenus maintenant des élèves un peu moins jeunes, regardent surtout l'ordinateur, les tracés, sans regarder les animaux. Il faut toujours, toujours regarder le sujet d'expérience, que ce soit un comateux, ou bien comme il le décrit là, il voit ce sujet qui a une plaie dans le cerveau.
Une sorte de hernie.
C'est ça, oui. Et il s'aperçoit que la hernie gonfle et tout. Ça a été décrit presque tout de suite après ce roman par Mosso, qui était un physiologiste italien, et qui également avait regardé un enfant. Et il avait dit, à ce moment-là, c'était en 1850 et quelques, qu'il avait dit... Est-ce que peut-être cet afflux de sang chez ce pauvre enfant ne traduirait pas peut-être déjà des rêves ? C'est extraordinaire, Mosso.
Voilà.
1850.
1850. Hein ?
L'idée qu'il se passe quelque chose pendant le sommeil ou le coma et que cette augmentation de la circulation sanguine, que l'on voit bien entendu très facilement maintenant avec les appareils modernes, puisse traduire un espèce de travail du cerveau inconscient et qui serait le rêve.
Justement, c'était une de mes interrogations. Est-ce que vous n'avez pas éprouvé une difficulté en écrivant de vous cantonner dans le XVIIIe siècle et ses observations physiologiques, alors que maintenant, au XXe siècle, on a l'électroencéphalographie qui a bien sûr changé les données. Vous n'avez pas eu de temps en temps des difficultés à bien vous dire non, ça au XVIIIe, on ne pouvait
non,
pas savoir.
Non, parce que la seule observation, par exemple des lapins, l'histoire de la lapine, que mon ami Jean-Didier Vincent a bien étudié, vous mettez une lapine au mâle, et 5 à 6 minutes après le coït, elle va s'effondrer complètement, ses oreilles vont tomber, et il a fallu du temps, bien sûr, pour s'apercevoir que c'était le rêve. Mais à cette époque, j'avais trouvé un livre d'un individu extraordinairement curieux, dont bien entendu, qui avait envoyé un questionnaire, il était quelque part en Normandie, un questionnaire à tous les échevins en leur disant « Connaissez-vous des animaux qui ne rêvent pas ?» hein ? Donc l'idée que les animaux puissent rêver, c'était répandu partout.
C'est une vieille idée.
Une vieille idée qu'Aristote avait déjà vue. Aristote disait « Tous les animaux rêvent, sauf les animaux à coquilles ». Il avait raison.
En tout cas, tous les mammifères, c'est ce que vous démontrez dans votre livre. L'autre ouvrage, Michel Jouvet, que vous avez publié, s'intitule « Le voleur des songes ». Alors, Solène Rebin l'a lu attentivement, vous a préparé quelques questions, mais juste après la petite pause musicale, on se retrouve avec elle. Retour dans notre émission Au fil des pages en compagnie de Michel Jouvet et c'est Solène Rebin qui va vous faire part de ses questions à propos de votre autre roman Le voleur de songes.
Michel Jouppé, bonjour. Effectivement, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre ouvrage Le voleur de songes. Alors, une question me vient tout de suite à l'esprit. Votre roman est-il une fiction ou une autobiographie provocatrice?
Ah, voilà. C'est les deux. C'est les deux parce que j'aurais pu le mettre à la troisième personne, comme un roman, comme...
Comme le premier, comme le...
Mais il renferme... Il y a beaucoup d'événements personnels que j'ai mis dedans.
Et plus comme... que, si je puis me permettre, des événements personnels, vous parlez à la première personne du singulier.
Oui, bien sûr.
Et le narrateur s'appelle Michel Jouvet.
Bien sûr, j'ai eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de rêves. Et comme ces rêves, qui étaient certes beaucoup de rêves, sont des vrais rêves que j'ai eus. Des rêves, comme dirait Lacanien, sont des rêves rébus. Et bon, j'aurais pu mettre quelqu'un disant il a eu ce rêve et tout, mais bon, j'ai préféré le mettre parce que il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Tout ça se passe à Monte Grotto, où bien entendu je suis allé pendant 7 années essayer de guérir mes maux de dos.
Alors Monte Grotto se situe où?
Monte Grotto, c'est à Venise, ensuite Padoue. Et à 15-20 kilomètres de Padoue, c'est-à-dire que par le train rapide, il y a des trains toutes les heures, vous êtes en 20 minutes, 30 minutes à Venise. Donc c'est dans la région, c'est au à côté des collines Eugène.
Alors justement, le décor du roman, si tant est qu'on puisse parler d'un roman, est planté en Vénétie. Alors Venise certes, mais également, vous venez de l'évoquer, les environs, dont vous dressez des descriptions toujours très précises. Padoue, Albano, le Monte Grappa. Alors d'où est-ce que vous tirez une connaissance aussi parfaite de la région? Vous venez nous l'expliquer
Au cours de 7 séjours, je suis vraiment allé. Je suis allé à Monte Grappa parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est quelque chose que j'ignorais. Cette espèce de nécropole qui est à 1200, 1300 mètres où au lever du soleil, vous dominez presque toute la Méditerranée, presque, bien sûr, Venise, mais à la rigueur, on pourrait presque voir les lumières de Trieste dans le fond. Et on s'aperçoit que dans ces combats contre les Autrichiens, les Italiens ont eu beaucoup de chance que les Autrichiens n'arrivent pas jusqu'à Venise à ce moment-là, tous ces combats qu'il y a eu. Et puis, il y a tous les collines Eugène qui sont tous... Et puis Padoue, c'est intéressant. Puis bien sûr, j'avais pris l'habitude d'aller sur le Vaporetto numéro 41, qui est un de ceux qui montre le plus.
Alors le Vaporetto, c'est quoi?
Le Vaporetto, ce sont ces bateaux qui circulent sur les canaux de Venise, qui s'arrêtent, certains sont très rapides et ont peu d'arrêt, d'autres s'arrêtent à peu près tous les 100 mètres. Vous prenez, vous rentrez dedans, vous restez debout. Si vous trouvez une place, ben c'est très bien. Et c'est le seul moyen de se promener dans Venise. Bien sûr, vous pouvez prendre des gondoles, mais bon, ça fait abandonner. Quand vous allez prendre l'avion de l'autre côté de la mer, là, vous pouvez prendre aussi des vedettes très rapides.
Et justement, vous nous expliquez, vous précisez, vous décrivez avec beaucoup d'exactitude cette région. Vous prenez des notes lorsque vous êtes sur place
ou... Non, c'est les souvenirs. Mais de toute façon, c'est très curieux parce que j'invente un métro. Je suis interné à l'hôpital psychiatrique, ce qui m'est évidemment pas arrivé. Et j'invente que je me sauve dans le métro qui part devant l'hôpital, ce qui est un endroit assez pittoresque, et qui va jusqu'au cimetière qui est dans une île. Et à ma grande surprise, j'ai lu il y a un an qu'ils vont construire un métro à Venise. Donc, l'idée qu'ils puissent avoir un métro à Venise...
Vous leur avez donné l'idée de construire un métro à Venise. Et les personnages aussi sont troublants de vérité. On voit des étudiants qui sont passés quelque temps dans votre laboratoire du sommeil à Lyon, un fameux Sergueï russe, une Bianca de Torino, Turin, des scientifiques russes, viennois. Alors, toute ressemblance avec des personnages ayant existé est-elle purement fortuite?
Non, ils ont existé, ils sont reconnus. D'ailleurs, mon livre, curieusement, va être traduit également en russe, comme l'a été l'autre. Et j'ai tout un chapitre sur le congrès de physiologie de Saint-Pétersbourg, où j'étais en effet allé. Toutes les dates sont exactement celles qui étaient. Et des discussions que j'ai eues avec des scientifiques russes. Et cette discussion, nous l'avons eue, puisque un de mes camarades, qui était de l'Allemagne de l'Est à cette époque, la RDA, c'était avant la chute de l'URSS, qui m'avait parlé, qui connaissait un peu ma théorie de la programmation, et qui me disait « ce serait formidable si on pouvait agir certaines zones du cerveau pour changer un peu la programmation ». Comme ça, on pourrait agir un peu sans que les gens le sachent. Et c'est à la suite de ça qu'ils discutaient, qu'ils m'avaient dit, ben, grâce à ça, on pourra peut-être faire arriver Vladimirovitch. Et c'est à la fin seulement que j'apprends.
Ne nous le dites pas, ne nous le dites pas. Voilà. Ne dévoilez pas tout aux futurs lecteurs.
Voilà. Donc, mon problème, c'est que recevant moi-même cette drogue, secrètement dans l'ouvrage, ça je l'ai inventé. Encore que fort probablement des molécules commencent à sortir qui pourraient avoir peut-être le même effet.
Alors, juste cette molécule, ce fameux GB169, voilà, qui permet d'altérer la conscience pendant le rêve, est-ce qu'elle existe?
Elle pourrait exister, donc quelque chose qui peut exister existera sûrement. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui la cherchent maintenant? Je ne sais pas. Parce qu'on me l'administre. Donc, mon grand problème dans ce roman ou cette biographie a été d'essayer de montrer comment je changeais de personnalité. Et en fait, je suis plutôt quelqu'un d'assez asocial, enfin, pas très exubérant. Et vous voyez que... Très rapidement, d'abord, j'abandonne l'idée d'écrire un article sur ma théorie et je commence à croire aux rêves prémonitoires, à toutes ces choses-là.
À l'astrologie, beaucoup. Vous lisez votre...
Oui, c'est ça, l'astrologie, qui est une chose, bien entendu, auquel je n'ai jamais cru.
Bah, vous refusez même de lire Le Monde sur la fin de l'ouvrage.
Exactement. Je refuse.
Parce qu'il n'y a pas d'astrologie dans Le Monde.
Voilà, exactement. Donc, je deviens quelqu'un très ouvert à toutes ces espèces d'histoires, la psychologie très curieuse et tout, les Jungiens, toutes ces nouvelles psychologies que j'ai apprises après en lisant ce fameux journal de psychologie qui m'a bien amusé. Donc je suis rentré là-dedans en pensant que l'âme existait et que puisqu'elle pouvait nous traduire des idées prémonitrices, que la flèche du temps, c'était un délire total, la flèche du temps pouvait s'inverser. Et comme il y a un rapport entre le temps et la gravitation, je me suis lancé dans l'étude des antigravitons. Enfin, vous savez, ça, c'est un délire.
Justement,
inventé.
C'est ce que vous dites, c'est bien le préciser de temps en temps, c'est un délire. Mais
inventé.
Ça crée une confusion permanente dans l'ouvrage. On ne sait plus ce que vous pensez réellement ou ce qui tient du domaine de la fiction. Et vous semblez même prendre le contre-pied de toutes vos théories dans cet ouvrage.
Exactement, parce que justement, je suis drogué.
Ça, on ne le sait pas. Et vous n'hésitez même pas à vous caricaturer vous-même, ou bien ce sont vos pères que vous décrivez. Mais alors pourquoi? Même, je vais citer un passage de votre ouvrage qui est assez étonnant, surtout pour tous vos pères qui ne l'ont pas lu. Vous écrivez, on vous interroge, cette fameuse Bianca turinoise vous interroge, elle vous dit « Et vos recherches ?» Et vous répondez « Quelles recherches? L'onirologie, l'onirophysiologie, c'est fini. C'est un trop long tunnel d'erreurs, un labyrinthe d'idées fausses ou obscures. Fini les congrès d'ânes savants ridicules et vaniteux. Fini les peptides, les médiateurs, les synapses. » Alors, qu'est-ce que c'est que ça, monsieur Jouvet?
Vous savez, je ne suis pas le premier à me moquer des congrès. Il y a eu ce très grand auteur, et ça s'appelait les Cool Girls, comment il s'appelait ce Hongrois qui avait écrit, qui s'est moqué d'un congrès qui se passe avec des neurophysiologistes et une particulière anthropologue qui couche aussi ensemble et qui raconte des tas d'histoires. Donc, je crois que c'est bon d'avoir un espèce d'humour concernant... Vous savez, je suis allé à de très nombreux congrès, peut-être trop, et beaucoup étaient vraiment des congrès où les gens s'écoutent parlent sans écouter les autres, et on perd un peu son temps.
Dernière question qui semble très importante dans votre ouvrage, l'art semble vous passionner. Votre personnage ou vous-même souhaite même se consacrer à l'étude des rapports entre l'art et le rêve. Surtout la peinture, alors, où en êtes-vous?
Eh bien, là, ça, c'est quelque chose de vrai. J'ai eu l'occasion, d'abord, bien entendu, à Padoue, la fameuse, je ne me rappelle encore pas le nom, de cette magnifique chapelle de Giotto, mais j'ai vu beaucoup de... Puis d'après, dans les musées, dans les livres, j'ai vu au moins, peut-être, plus de 60 images où on représente le receveur de messages de Dieu, c'est-à-dire, par exemple, la Sainte Vierge et la visite de l'ange Gabriel, ou bien, plus de 80% des cas, l'ange où Dieu est situé dans le cadran supérieur gauche, tandis que le rêveur, ou celui qui reçoit le message, est dans le cadran inférieur droit. Donc, à ce moment-là, toujours dans le délire, je pense qu'il y a peut-être une zone spécifique de mon cortex occipital qui est fait pour recevoir les annonces de Dieu. Mais vous pouvez le regarder, aller au musée cet après-midi. Vous verrez dans tous les descriptions de rêves, même les rêves de Mahomet sur sa jument. Je ne me rappelle plus le nom de sa jument.
Borak.
Borak, c'est ça. Très bien. Eh bien, c'est en haut à gauche. Même
simplement parce que nous lisons de gauche à droite, non ? Vous ne croyez pas qu'il n'y a pas...
Je ne sais pas, en haut et en bas, c'est un travers comme voilà. Ça. Je ne sais pas, il y a certainement
voilà
une raison.
Voilà encore un mystère.
Mais
alors.
Il faudrait que... Je pense que ça a dû être étudié par les historiens de l'art. Et donc là, je pose une question. Y a-t-il une réponse ?
On interrogera l'un de vos confrères de l'Académie des Beaux-Arts. Michel Jouvet, un secret, une confidence pour terminer notre émission pour les auditeurs de Canal Académie. Avez-vous un prochain livre en préparation ?
Peut-être.
Ah, le peut-être.
Peut-être, ça dépend de mon éditeur, qui est bien sûr dit Jacob. Je ne sais pas s'il acceptera. Ce ne sera pas exactement une biographie, mais ce sera un peu des souvenirs d'une physiologie qui a disparu presque entièrement, pour essayer de recréer un peu les images qu'étaient, il y a 50 ans, un laboratoire de physiologie, où on regardait pas que des gènes sur des d'autohistoradiographie et tout ça. Il n'y avait pas d'ordinateur.
On était sur le vivant.
C'était sur le vivant, perpétuellement. J'ai passé des nuits entières à regarder ce phénomène très étrange, le sommeil paroxal. Je pense qu'il faut redonner à nos amis médecins, et chirurgiens et physiologistes le goût de l'observation.
C'est sur cette conclusion de Michel Jouvet que je vais vous rappeler les deux émissions qu'il a bien voulu donner à Canal Académie sur le sommeil et le rêve. Elles sont disponibles à l'écoute et au téléchargement dans notre médiathèque. Vous les trouverez aisément par le moteur de recherche. Michel Jouvet, merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Solène Robin, merci aussi
merci.
De votre participation.
Merci.
Merci à tous de votre écoute et à une prochaine fois.